France Inter, le 7-9.
Il est 7h50, Karine Bécard, votre invitée ce matin, est reporter de guerre.
Bonjour Martine Laroche-Joubert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors votre voix, qu'on n'a pas encore très bien entendue, mais elle nous est familière. Vous avez été l'un des grands reporters de France 2 pendant près d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, vous vous racontez dans un livre, Une femme au front, qui sort demain aux éditions du Cherche Midi. Et vous nous révélez comment ça se passe vraiment quand on se retrouve sur le terrain, quand on se retrouve sur une zone de conflit. Martine Laroche-Joubert, comment avez-vous compris, vous, que vous étiez faite pour devenir une reporter de guerre ?
Je pense que je l'ai compris. J'ai fait beaucoup d'infogénés quand je suis rentrée à la télévision.
Donc c'est du grand reportage, ça, classique. Hein,
voilà. Absolument. Je me souviens des affaires Boulin, beaucoup de, l'enlèvement du baron Empain. Donc moi, j'ai commencé comme ça. Mm-hmm. J'ai commencé aussi au Quotidien de Paris, où j'ai fait des sujets économiques. Et puis après, j'ai fait une émission très rock'n'roll sur Antenne 2. Bon. Et puis, j'avais beaucoup de mal à trouver ma voix. Je pense que je l'ai trouvée en Haïti. Quand il y a eu des élections en Haïti, les premières élections libres après le départ de Baby Doc, et que les tontons Macoutes ont essayé d'empêcher ce scrutin de se dérouler, qu'ils ont découpé des gens à la machette, c'était extrêmement violent. Et moi, j'ai senti à ce moment-là que j'arriverais à être bien dans cette urgence, que j'arriverais à trouver des sujets inédits, que je ne cédais pas à la panique. Mmh. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que je pouvais traiter les conflits.
C'est l'adrénaline que vous avez senti aussi ?
Bien sûr qu'il y a une part d'adrénaline, mais il y a aussi une grande part d'intensité. Tout est une question de vie ou de mort, tout est intense. Et ça, c'est
vous avez besoin de cette intensité en fait. C'est ça que vous nous dites ?
Oui, j'ai besoin de cette intensité, absolument. J'ai besoin de cette intensité. Je n'ai pas fait que des reportages de guerre. J'ai essayé justement, il faut pas si on ne fait que des reportages de guerre, je pense que un jour ça finit mal, parce qu'on va toujours de plus en plus loin. Et ce qu'il y a de bien à la télévision, c'est que vous revenez d'un reportage de guerre et puis on vous fait faire une permanence nuit. Hein, je veux dire, bon voilà. Finalement, c'est assez bien, parce que ça nous ramène à la réalité.
Alors vous avez une assez jolie formule, je trouve. Vous écrivez que pour vous, mettre régulièrement l'Occident à distance est devenu une nécessité. Pourquoi ?
Je pense que ça vient aussi de mon enfance. J'ai très marquée par ma toute petite enfance que j'ai passée au Maroc, dans le désert, et où j'avais une sensation de liberté absolument immense. J'ai adoré cette période. J'ai des souvenirs extrêmement précis que je raconte dans ce livre, et je pense que c'est là que j'ai attrapé le virus du grand air, de l'aventure.
Les terrains de guerre, c'est le grand air. Vous dites ça ?
Oui, ça paraît
incroyable d'entendre ça. Oui,
oui, ça paraît incroyable. Je me souviens d'une réflexion à Sarajevo d'un grand reporter du New York Times, John Burns, qui disait Sarajevo, c'est le rêve de tout journaliste. Alors ça paraît choquant ce genre de déclaration, mais c'est vrai. C'est vrai parce que si je parle de Sarajevo, par exemple, c'était un drame. Il y avait une unité de lieu, il y avait une unité d'action, et il y avait la mort en finale. Donc pour nous, journalistes, c'était passionnant, même si l'assertion est choquante et paraît brutale.
Alors ça vous a justement beaucoup marqué, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, le siège de Sarajevo. Vous dites là-bas, j'ai découvert ce que c'était la guerre à l'ancienne.
Exactement, parce que je revenais d'Irak, où il y avait eu la première guerre du Golfe, et où on voyait arriver les missiles très lentement, ils passaient comme ça au-dessus du jardin, ils retombaient de l'autre côté de la rue. Et comme ça, dans ma tête, j'imaginais au fond que les prochaines guerres seraient toujours comme ça. Et quand je suis arrivée à Sarajevo, à ce moment-là, c'était vraiment un siège, quoi. C'était un siège moyenâgeux. Imaginez Sarajevo tout de même, il y avait eu les Jeux Olympiques à Sarajevo, en 1984. Et subitement, c'était un siège, avec des gens affamés, avec des snipers. C'était le retour à la guerre d'antan. Et ça, c'est ce qui m'intéresse dans les guerres. C'est pas, au fond, quand même, les armements, ce qui tombe, etc. Bon, ça m'intéresse pas, et en plus, je n'y connais pas grand-chose. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens s'adaptent, comment ils vivent la guerre.
Mmh. Comment l'humain, en fait, sait faire face, sait réagir. Alors justement, est-ce que c'est effrayant, humainement, de se rendre compte que finalement, on se sent bien ? Au milieu de tout ça, on sent bien là où il y a la misère, là où il y a la guerre.
Oui, ça paraît violent aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire que, comment dire, si on a des problèmes, nos propres petits problèmes personnels n'ont aucun intérêt quand on se trouve devant des événements beaucoup plus grands que nous. Et c'est souvent ce qui se passe dans les conflits.
Vous aimez sentir l'instinct de survie, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, non ? Cette capacité à résister à tout.
Oui, C'est vrai, il y a l'instinct de survie, mais nous n'avons plus aucune importance. Je n'ai plus aucune importance dans ce genre de situation. Tout est plus fort, tout est plus grand que moi. Et mon seul souci, c'est de réussir à essayer de rendre cette intensité, cette angoisse des gens qui sont devant moi. C'est ça qui est important.
Alors, il faut absolument parler aussi de l'Irak. Vous y êtes allé près d'une vingtaine de fois, je crois. Vous avez connu les deux guerres du Golfe. Et lors de la première, début 1991, vous acceptez de quitter le pays devenu trop dangereux. Sauf que tout de suite après, vous allez avoir honte de votre décision. Vous ne vous en remettrez pas. Expliquez-nous pourquoi.
J'ai reçu l'ordre de quitter l'Irak. Hein. J'avais
votre
fait
rédaction.
Un vote. Voilà, l'ordre de la rédaction. J'avais fait un vote interne à l'équipe. Bon, on était trois pour partir. Moi, je voulais rester. J'ai pas eu la force de convaincre le caméraman et le preneur de son de rester.
Et donc, pourquoi c'est traumatisant?
C'est traumatisant. C'est traumatisant parce que l'objectif d'un reporter, c'est d'être là où ça se passe. Voilà, c'est tout. Et j'ai obéi à cet ordre. Je n'avais pas peur, je l'ai obéi, je pense par faiblesse, parce que c'est plus facile d'obéir que de transgresser les ordres et tout ça. Et quand je suis arrivée à Amman et que j'ai téléphoné à ma fille, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous à Amman? C'est à Bagdad que tu dois être !» Oh, j'ai vraiment eu honte.
Ça vous a fait quoi en fait au fond de vous?
C'est une blessure d'honneur, je dirais. Et quand j'ai lu le livre de Philippe Lançon, là, Le Lambeau, j'étais très frappée par ça. Avant d'aller avant d'aller à Charlie Hebdo, le jour de l'attentat, il a un tapis chez lui, et ce tapis est pour lui comme un remords vivant, parce que lui aussi est parti. Il a acheté un tapis avant de partir, il ne sait pas trop pourquoi non plus, comme moi, et c'est un remords vivant des années et des années après. Les blessures d'honneur mettent beaucoup de temps à s'effacer, et même maintenant, elle ne s'est pas encore tout à fait effacée.
Et pourtant vous dites, aucune image ne mérite la mort.
Oui, c'est vrai, aucune image ne mérite la mort, Mais j'aurais dû rester. Je regrette d'avoir obéi à cet ordre. Oui.
Alors, est-ce qu'on vous a beaucoup poussé? Est-ce qu'on vous a au contraire beaucoup trop protégé? Est-ce que le métier a progressivement changé?
Pas tant que ça, finalement. Pas tant que ça. Les moyens techniques ont changé. Je me souviens qu'autrefois, nous rêvions de pouvoir émettre nos sujets. Voilà. Techniquement, ça a changé. Ce qui a changé aussi, c'est le portable. C'est le fait que les rédacteurs en chef peuvent nous téléphoner pour nous dire « fais ci, fais ça », etc. Bon.
Donc tout est facilité.
Non,
on peut dire comme
au contraire.
Ça,
non. Non. Au contraire.
Vous étiez mieux quand la rédaction pouvait pas vous appeler.
Oui,
d'accord.
Absolument.
Tranquille.
Oui. Et heureusement, dans les terrains de guerre, le portable ne passe pas en général. Et ça, c'est formidable.
Vous êtes des vénards. Mais on a le sentiment quand même qu'il y a des terrains qui sont de plus en plus oubliés. Je me trompe quand on dit ça ou pas?
Oui, il y a des terrains oubliés, mais quand même. Et c'est pour ça aussi que... Non, mais les reporters essaient toujours d'y aller. C'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre.
Mais les rédactions en face, elles sont de plus en plus frileuses, non?
Oui,
elles en envoient
ça,
toujours
exactement.
Autant ou pas?
Oui, non. Les rédactions sont frileuses. C'est un métier qui est menacé. Il est menacé par les politiques qui entretiennent la méfiance envers les reporters. Il est menacé par les financiers. Pour eux, les reporters sont des danseuses, quoi. On est à un luxe complètement inutile. Par les patrons de presse qui sont frileux. Donc c'est un métier menacé. Et j'ai voulu montrer pourquoi ce métier était absolument indispensable pour comprendre le monde, pour lutter contre les fake news, pour rencontrer des personnalités visionnaires et à qui on ne donne pas forcément la parole. Il faut que les journalistes aillent la chercher, cette parole. C'est ça qui est important. Il faut se battre. Et il faut se battre aussi dans les rédactions pour partir.
Mais ils sont frileux parce que ça coûte cher, ou ils sont frileux parce qu'ils se disent que les téléspectateurs ne sont pas très intéressés par ces informations-là?
Non, c'est faux de penser que les téléspectateurs ne sont pas intéressés. Vous savez, quelquefois, quand on regarde le journal minute par minute, on voit que les téléspectateurs sont intéressés. Alors, c'est vrai que ça coûte... C'est vrai qu'il y a moins d'argent dans les rédactions. Ça, c'est sûr, je suis consciente de ça. Mais les reporters, de leur côté, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je veux dire, souvent, on part à deux. Et c'est le caméraman qui tourne, qui monte les sujets. Et c'est vraiment... lourd sur ses épaules, c'est lourd sur nos épaules. Donc on a fait des efforts de notre côté. Ça coûte cher, mais moins cher que certaines émissions de variété franchement.
C'est des choix.
Ce sont des choix.
Les grands reporters donc témoignent du monde, la racontent, et en général, j'ai envie de dire, sans faire de commentaires. Alors pourquoi est-ce que vous avez signé en mars dernier cette tribune qui demandait le rapatriement des enfants de djihadistes français? C'était votre place de faire ça? Vous avez senti ça comme ça?
Oui, je l'ai senti parce que d'abord, je pense qu'il faut que les enfants rentrent. Ça, c'est absolument indispensable. C'est une question, la France est la patrie des droits de l'homme. Il faut que les enfants rentrent, ils n'y sont pour rien. Il faut aussi que, je pense, que leur mère rentre. Et ça, c'est par pragmatisme. Je connais ces camps. Ces femmes sont complètement radicales, elles sont dangereuses. Elles finiront un jour par s'échapper. Les Kurdes n'ont pas les moyens de les garder. Il faut que ça soit nous qui nous en occupions.
Merci Martine Laroche-Joubert d'avoir été avec nous ce matin. Votre livre, Une femme au front, mémoire d'une reporter de guerre, sort demain aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment.